J'ai le plaisir ce matin d'être devant vous. C'est pour se rappeler cette joyeuse nouvelle qu'on vient de chanter. Jésus-Christ est roi, il est vivant. Et voilà, c'est une nouvelle qui a été annoncée depuis 2000 ans. C'est une nouvelle qui a été reçue depuis 2000 ans, plus ou moins bien, par chacun. C'est une nouvelle à laquelle certains, encore aujourd'hui, tiennent beaucoup. Ici, parmi nous, il y en a. Et c'est aussi une nouvelle de laquelle beaucoup espèrent un salut, envers et contre tout. On dit Jésus est vivant, et pourtant depuis 2000 ans, les générations passent et elles arrivent dans la tombe, chacune les unes après les autres. Et sauf si je ne m'abuse, en tout cas moi je n'en fais pas partie, je n'ai pas assisté de près à une résurrection, et pourtant on continue à y croire. Alors si vous écoutez ce matin et que vous doutez de la réalité de cette résurrection ou de cette bonne nouvelle, très honnêtement, arrêtez d'être pitoyable, laissez tomber la foi chrétienne. Et voilà, si vous n'y croyez pas, hein, je vous rappelle juste que votre croyance est absolument ridicule et ridiculement inutile. Bon, alors il y en a peut-être qui se disent, pour une première prédication dans cette église, c'est un peu choquant. Excusez-moi, hein, je viens juste de paraphraser. Des paroles de Paul. Bon, alors si c'est Paul qui le dit, ça va. Et je vous propose de voir justement ce texte qui affirme à la fois la puissance de notre croyance et en même temps quels sont les points qu'il faut défendre pour qu'elle puisse avoir un sens. C'est dans le chapitre 15 de la lettre que Paul écrit aux Corinthiens que je vous propose dans les 28 premiers versets qu'on lira petit à petit. Et je vais essayer de suivre ce plan que Paul nous propose dans les deux premiers versets là, que j'ai paraphrasés, où il est question d'une annonce, il est question d'une réception, il est question de tenir, et il est question également de s'en saisir pour ce que Paul dit, la voie du salut, ce chemin d'espérance. Et j'essaierai de montrer que dans ce passage, Paul nous rappelle que voilà, revenir des morts, la résurrection, c'est une nouvelle qui doit prendre au corps. Et je soulignerai chacune des quatre parties avec un jeu de mots un peu ou une expression qui utilisera le mot corps. Alors je vais relire avec les mots précis de Paul ces deux premiers versets. Donc dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 15. Je vous confirme, mes frères, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Celle que vous avez reçue, dans laquelle vous vous tenez, et par laquelle aussi vous êtes sur la voie du salut, si vous la retenez dans les termes où je vous l'ai annoncée. Autrement, c'est pour rien que vous seriez venu à la foi. Donc ça, c'est le point de départ, et on va voir comment cette bonne nouvelle de la résurrection peut nous prendre au corps. On va d'abord lire les versets 3 à 11. Qui nous parle de cette transmission, de cette annonce par Paul, mais qui peut encore résonner pour nous aujourd'hui. On verra comment cette nouvelle de la résurrection est à annoncer à notre corps défendant. Et là, je retourne un petit peu l'expression française. Je ne veux pas l'utiliser dans son sens premier, qui est dire malgré nous, mais à notre corps défendant, au sens que parfois il faut le défendre avec notre corps. Verset 3. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais moi-même reçu, et c'est ici le cœur de la nouvelle, le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il s'est réveillé le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, donc c'est Pierre, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, la plupart d'entre eux sont demeurés en vie, quelques-uns se sont déjà endormis dans la mort. Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme un avorton. Moi, en effet, je suis le moindre des apôtres. C'est même trop d'honneur pour moi que d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été inutile. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Enfin, pas moi, toutefois, mais c'est la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, telle est notre proclamation. Telle est la foi à laquelle vous êtes venus. un message à annoncer à notre corps défendant. Les premiers versets, versets 3, 4, nous rappellent quel est ce message. Jésus-Christ est mort, il a été enseveli, il est revenu à la vie 3 jours après. Et c'est ce contenu qu'on continue de proclamer. Et je pense que quand on annonce ce contenu, quand on le proclame, eh bien, c'est important d'en être convaincu. Dans ce passage, Paul a déjà dit au moins une fois, voilà, au verset 2 à la fin, autrement, si on ne le retient pas dans les bons termes, hein, ça ne sert à rien. Et donc, pour moi, en tout cas, dans mon chemin de foi, et lorsque j'ai pu partager la foi, notamment dans des camps d'évangélisation, c'est ce chemin que je prends à chaque fois, c'est l'historicité de la résurrection. Je me base vraiment sur ce passage pour rappeler que si cet événement historique n'a pas eu lieu, ma foi ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller parler d'Ézéchiel, d'Apocalypse ou de Nahum ou d'Habacuc. Ça ne sert à rien. On peut mettre tout ça à la poubelle et puis lire d'autres livres plus faciles à lire parfois. Mais si on est convaincu de cette résurrection, alors notre foi a un sens. Et ça, c'est vraiment l'approche, ce qu'on appelle l'apologétique, la défense de la foi qui me tient à cœur et que je vous propose aussi de vous en saisir lorsqu'on a besoin d'abord pour soi-même. Je pense que la défense de la foi a trois vertus. Une première, c'est qu'elle nous encourage, nous, elle nous fortifie dans notre propre foi et on a parfois besoin parce que les doutes arrivent vite. Elle nous permet de parler aux autres et puis, si Dieu le veut, de pouvoir amener d'autres personnes à Christ. Et puis le troisième intérêt de cette défense de la foi argumentée et puis convaincante, c'est qu'elle glorifie Dieu. Parce qu'en présentant avec pertinence le message de la Bible, on présente la beauté de sa parole, la pertinence de ce qui est écrit, et on glorifie Dieu ainsi. Et donc on a ici ce message avec cet aspect très très clair que Paul annonce aux Corinthiens. En fait, en substance, il leur dit, si vous n'y croyez pas, allez-y, interrogez Céphas, interrogez les autres apôtres, allez-y voir Jacques, il y en a encore 500, je pourrais vous donner les noms si vous voulez, on peut faire un post-scriptum à la lettre avec les adresses. Allez-y, bon, il y en a quelques-uns qui sont morts, désolé, mais les autres sont encore vivants, allez-y. Et ça, pour moi, c'est un des messages les plus pertinents pour expliquer l'historicité de la résurrection. C'est que les premières personnes qui l'ont affirmé, elles étaient prêtes non seulement à en mourir martyrs, à leur corps défendant, mais elles étaient prêtes à s'exposer à ce questionnement par d'autres. Et deux aspects sont présentés ici dans ce texte pour justifier cette vérité de cet événement. Il y a, bien sûr, parce que Paul est juif, il y a la cohérence avec les prophéties qui étaient là, et puis la présence de ceux qui peuvent encore témoigner. Alors pour nous aussi, c'est important, si en plus de la résurrection, on s'appuie sur toute la Bible, je trouve que c'est aussi un message fort de voir que les prophéties parlaient de cet événement. On peut voir juste rapidement dans Ésaïe, au chapitre 53, un passage bien connu qui nous parle d'un serviteur qui viendra de la part de l'Éternel et qui nous dit, dans les versets 5 par exemple, il a été transpercé, donc là il est bien question de la mort. Ensuite, au verset 9, on a mis sa tombe parmi celles des méchants. C'est ce que Paul rajoute, il a été enseveli. Et puis, au verset 10, de manière un peu mystérieuse et voilée, il est question qu'il aura une descendance, il prolongera ses jours, la volonté du Seigneur se réalisera par lui. Donc là aussi, il est question de manière un peu voilée de revenir des morts. Et puis, c'est dans Osée, au chapitre 6 également, au verset 2, qu'il est question de se réveiller après 3 jours et qui est interprété aussi à propos du Christ. Donc voilà, on peut, quand on parle de la Bible, on peut le faire avec confiance. Son message est clair et puis ces prophéties qui étaient là témoignent avec vérité de cet événement. Mais je pense que peut-être d'autant plus aujourd'hui que les gens sont peut-être moins des gens de livres que des gens de ce qu'on peut voir avec les yeux à la télé. C'est important de parler de ce témoignage historique. Pour moi, l'événement historique non contesté qui me permet d'avoir foi en la résurrection, c'est la naissance de l'Église, l'apparition d'un peuple de gens qui affirment que Jésus est ressuscité, qui est prêt à aller mourir pour ça, qu'il y ait quelques fanatiques qui meurent pour une cause perdue, encore, mais qu'il y en ait un si grand nombre de personnes si différentes, des personnes qui étaient juives, des personnes qui étaient romaines ensuite, et qu'elles soient prêtes à aller jusqu'au martyr, jusqu'à la mort, en affirmant quelque chose qui était vérifiable encore à l'époque. On aurait pu aller chercher dans le tombeau, on aurait pu aller questionner toutes ces personnes qui auraient fini par dire bah non, c'est bon, c'est une fumisterie. Ben non. Et donc, cet événement incontesté par les historiens aujourd'hui, moi, il me semble que ça affirme avec grande force que la résurrection a bien eu lieu. Ces personnes ont défendu de leur corps, les martyrs après, du 1er siècle, du 2e siècle, ont défendu la véracité de cet événement. Et je pense que c'est à nous aussi de s'en saisir. On voit ensuite que c'est Paul qui dit qu'il est le moindre des apôtres. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et pourtant, lui, il a affirmé avec force ce message. Et je pense que nous aussi, on a la possibilité de le faire, le privilège de pouvoir le faire avec une grande liberté encore dans notre pays. Et je me demande parfois si on le fait vraiment à notre corps défendant. Est-ce qu'on ose en parler dans tous ces lieux où aujourd'hui on peut le faire? Je parlais encore ce matin avec Emma, j'ai une nièce qui a 7 ans, qui va bientôt se faire baptiser. Et depuis qu'elle a 6 ans, au moins un an et demi, elle parle de Dieu de manière très forte dans son église, dans son entourage, et elle vit des attaques qui sont surprenantes. Une maîtresse qui vient la chercher pour lui dire qu'on n'a pas parlé de Dieu dans l'église, dans la cour de récré. Un camarade qui vient lui dire, qui a 6 ans également, qui vient lui dire, toi ton Dieu, il est plus petit que mon pouce et je peux l'écraser. Et encore il y a une semaine ou deux, un papier qui circule dans la classe, tous ceux qui trouvent que Jésus est nul, vous pouvez mettre une croix ici. Voilà. Elle affirme sa foi de manière un peu mystérieuse pour une enfant de 7 ans et elle le fait à son corps défendant. Est-ce que nous, on ose le faire comme elle? Est-ce qu'on se laisse interpeller par les messages aussi de l'Église persécutée? Est-ce qu'aujourd'hui, on se prépare à peut-être plus de persécutions? Ou est-ce qu'on ose le peu de persécution qu'on pourrait avoir de rejet ou de mépris? Est-ce qu'on ose le braver? Est-ce qu'on ose dire comme Paul, ben voilà, je suis ce que je suis, mais moi, je crois à ça. Et bien sûr, la parole nous rappelle qu'on a besoin de l'Esprit. Jésus l'avait dit, on l'a en Jean au chapitre 14 par exemple, que, verset 26, que c'était l'Esprit qu'il allait envoyer en son nom, qui nous enseignerait tout et qui nous rappellera tout ce que lui avait dit. Et donc nous, on a cet Esprit qui est là pour nous aider. Alors qu'attendons-nous pour faire partie de cette nuée de personnes qui transmettent et qui annoncent cette parole à leur corps défendant? Ce que j'apprécie aussi dans ce passage, c'est que Paul dit que pour faire cette annonce, il y a des efforts à faire. Il est assez réaliste. Hein. J'ai travaillé plus que tous. Et c'est touchant parce qu'à la fois, il dit bah oui, j'ai travaillé. Et en même temps, il dit bon, c'est la grâce de Dieu qui travaille en moi. Et puis, il y a une notion de collective. Il dit voilà, moi, j'ai travaillé. C'est notre responsabilité à chacun. Est-ce que ce matin encore, on est prêt à participer à ce cortège de témoins? Et en même temps, il dit voilà, que ce soit moi, que ce soit eux, telle est notre proclamation. Il y a un aspect collectif. Et là, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on doit entendre et qui doit résonner en Église. Est-ce qu'on est prêt à se lever en Église pour partager et annoncer cette parole? Ou est-ce qu'on se contente, parce que c'est plus pratique, de le faire juste au sein de ces quatre murs? Alors, c'est sûr que Paul, il écrit à une Église, mais voilà, lui, il a annoncé aussi à des personnes qui n'avaient pas cette parole encore. Alors la question se pose pour nous, comment annoncer à notre corps défendant cette parole aujourd'hui? Est-ce qu'on veut le faire? Comment, envers nos amis non-chrétiens, est-ce qu'on en a déjà? Est-ce qu'on vit suffisamment de choses dans notre quotidien avec d'autres pour pouvoir oser en parler? Est-ce qu'on peut se faire aider? Demander à des personnes qui ont peut-être plus l'habitude ou à qui Dieu a donné des dons particuliers pour partager l'évangile. Est-ce qu'on peut aller les voir ou lire des livres sur ce sujet? Il en existe des bons. Pour avoir revu le contenu de la bibliothèque il n'y a pas très longtemps, je sais qu'il y en a au moins un de livres sur l'évangélisation que je connais et qui est bien. Il s'appelle, je crois, Évangéliser selon le Maître. Est-ce qu'en église, est-ce qu'en groupe de jeunes, est-ce qu'en groupe de moins jeunes, on veut se lever pour aller ensemble annoncer l'évangile? Est-ce qu'on ose le faire encore aujourd'hui? Je pense que on a de quoi, on a un sujet à parler qui est fort, quoi. Quelqu'un meurt et quelqu'un revient à la vie. Donc allons-y, faisons partie de ces personnes qui défendent ce message. Pour que ça soit pertinent, il faut essayer de s'imaginer aussi comment ça va être reçu, comment nous on le reçoit et comment les autres peuvent le recevoir. Et c'est la suite de ce passage. Voilà. Celle que vous avez reçue, la bonne nouvelle que vous avez reçue, nous dit Paul. Et on va lire les versets 12 à 16. Si l'on proclame que le Christ s'est réveillé d'entre les morts, comment quelques-uns d'entre vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? Et voilà, c'est bien ça la question, comment on le reçoit, cette nouvelle ? Parce que s'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ ne s'est pas réveillé. Si le Christ ne s'est pas réveillé, notre proclamation est inutile, et votre foi aussi est inutile. Et même, nous apparaissons comme des faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous disons au sujet de Dieu qu'il a réveillé le Christ, alors qu'il ne l'aurait pas réveillé, s'il est vrai que les morts ne se réveillent pas. Si les morts ne se réveillent pas, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Voilà. À un moment donné, il y a un clivage. Qu'est-ce qu'on dit quand on entend ça ? Et c'est la deuxième partie de ce texte, c'est une nouvelle avec laquelle il faut faire corps. Il faut être d'accord, ou on n'est pas d'accord, ou on est d'accord. Mais à un moment donné, si on veut la recevoir, il faut qu'on y fasse corps avec elle. Il faut que ce message soit le nôtre. Et que, oui, aujourd'hui, quelqu'un meurt, mais nous, on croit qu'il existe quelque chose d'autre, qu'il y a une résurrection et que Jésus-Christ, le premier déjà, est revenu à la vie. Voilà. Qu'est-ce que nous on dit déjà quand on entend ces paroles ? Est-ce que ça a une réalité qui résonne vraiment en nous, la résurrection, que nous un jour on va revenir à la vie ? Est-ce qu'on y pense ? Est-ce qu'on y pense que vis-à-vis de la mort qui nous effraie ? Est-ce qu'on se réjouit de ce moment futur de la résurrection pour nous ? Est-ce que on, voilà, c'était ma question de départ, celle de Paul. Est-ce qu'on est vraiment convaincu que Jésus est revenu à la vie ? Et est-ce que ça nous affirme dans notre foi ? Aujourd'hui, hein, comme en fait probablement à bien des époques, le monde est principalement matérialiste et le rejette un peu par habitude, par défaut ou souvent par méconnaissance, toute notion un peu de transcendance, toute chose qui serait en dehors de notre monde matérialiste. Et voilà, quelle est la réaction des personnes ? Alors souvent, et puis je pense qu'il faut faire attention parce que c'est une tentation qui pourrait nous guetter nous aussi, il y a un sentiment de supériorité vis-à-vis d'une soi-disant crédulité des anciens. On entend assez vite, quand on partage l'évangile, que oui, mais à l'époque, ils étaient suffisamment crédules, ils n'avaient pas la science, ils n'avaient pas ceci, ils n'avaient pas cela, et donc, bon, ils croyaient à n'importe quoi. Bon, déjà, d'un point de vue historique, c'est absolument faux. Hein, quand on lit les écrits anciens, quand on étudie les philosophes anciens, on voit bien que ce n'était pas des débiles, et que ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas la science actuelle qu'ils croyaient tout et n'importe quoi, et que pour eux, c'était normal qu'un mort puisse revenir à la vie. Hein. S'il y a bien une vérité assez simple à voir, c'est que quand on tue une fourmi, elle est morte, elle ne revient pas à la vie. Quand on tue une souris, elle est morte, elle ne revient pas à la vie. Et quand son frère ou son père meurt, ben, elle ne revient pas à la vie. Donc, se baser sur une soi-disant crédulité des personnes anciennes il y a 2000 ans, c'est juste ridicule, c'est condescendant. Et c'est très dommage parce qu'en fait, c'est juste une manière de rejeter le raisonnement pour soi-même. Est-ce que moi, j'y crois ? Est-ce que nous, en tant que personnes qui se disons chrétiennes, est-ce qu'on reçoit ce message en étant convaincus et au quotidien qu'il y a une réalité spirituelle, qu'il y a des esprits aussi ? Est-ce que on visualise aussi cet événement historique ? Est-ce qu'on arrive à s'imaginer, et parfois des films peuvent nous aider, voilà, le corps sans vie de Christ, son cœur qui s'arrête, cette dépouille qu'on amène au tombeau, et ensuite ce corps glorieux qui revient à la vie. Quand on prend la scène en église, est-ce qu'on visualise cet événement fondateur pour notre foi ? Et ça, je pense que c'est encore une question qui peut être importante pour nous. Comment on reçoit ? Est-ce qu'on y fait vraiment ? Est-ce qu'on fait corps vraiment avec cette nouvelle ? Et puis, alors, je propose deux pistes pour éclairer la réception potentielle de ce message pour les personnes à qui on pourrait le proclamer. Je pense qu'il y a au moins que je visualise un challenge et puis une porte d'espérance actuellement. Alors, c'est sûr que le challenge, c'est que la cohérence du discours ou la véracité raisonnée d'une argumentation, ce n'est pas tellement ce qui importe aux yeux des personnes actuelles. Il suffit de lire des commentaires sur des blogs ou autres. Ce n'est pas tellement la pertinence d'un raisonnement qui convainc aujourd'hui. Ce n'est pas très grave que les positions de quelqu'un ne soient pas très bien justifiées. Et ça, c'est frustrant en tant que chrétien si on veut affirmer la véracité de l'historicité de la résurrection. Bon, on se sent un peu dépité parce que nous, on veut présenter quelque chose qui tient la route parce qu'on y croit. Et puis en fait, les gens disent bah oui, pourquoi pas, mais en fait, ça serait, tu me présenterais quelque chose qui ne tient pas la route, ça aurait la même valeur à mes yeux. Donc ça, je reconnais, pour l'avoir vécu aussi, que c'est un challenge. Mais je pense que actuellement, il y a justement peut-être une perte de confiance en une technique et une science toute puissance. Alors, vis-à-vis de certains égards, je suis le premier à le regretter. Moi, j'ai une formation scientifique et les situations récentes nous, voilà, m'ont fait aussi parfois regretter qu'il y ait une fin de confiance, en tout cas dans beaucoup de choses. Mais ça a au moins l'avantage de limiter un rôle un peu salvateur qu'on pourrait donner à la science et à la technique et de se dire qu'on va être sauvé par la science ou par les progrès scientifiques. Et je pense que si ça a pu, en après-guerre, être un peu l'idée, aujourd'hui, ce n'est pas tellement ce délire. Il y a une forme un désabusé général vis-à-vis de ça. Donc, au moins, ça laisse la place pour l'histoire. Et d'abord, l'histoire avec un grand H, je pense. C'est ce que nous dit Paul aussi dans sa lettre aux Romains. Voilà, comment croiront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer ? Je pense que cette parole, elle est encore vraie aujourd'hui. Il faut l'annoncer parce que l'histoire, elle n'est pas connue. Quand on va parler de Dieu et de la Bible, de Jésus-Christ, les gens de notre... de toutes nos générations qui sont représentées ici, la grande majorité, ils ne savent rien. C'est tout juste s'il y en a qui ne savent pas que Jésus est mort sur une croix. Donc, cette histoire, si les gens ne se basent pas d'abord sur la raison et la science, parler d'une histoire, d'un événement, je pense que ça prend un sens aujourd'hui. Et puis, je pense que ce qui touche encore plus aujourd'hui, c'est l'histoire avec un petit H. C'est votre histoire, c'est notre histoire à chacun. Pourquoi on a rencontré Dieu ? Comment ? Qu'est-ce que ça touche et qu'est-ce que ça change dans notre vie ? Et donc, l'histoire de notre réception, de pourquoi nous on fait corps avec cette nouvelle, ça, aujourd'hui, ça peut encore toucher et ça peut permettre à des personnes de croire en la résurrection quand on leur explique ce que ça change dans notre vie. Le récit de notre accord à cette nouvelle, pour qu'il soit impactant, par contre, il faut qu'on puisse témoigner que cette nouvelle, elle change vraiment quelque chose. Et c'est la troisième partie de Paul. Il dit, cette nouvelle dans laquelle vous vous tenez, voilà, est-ce que vraiment, nous, on peut témoigner qu'on l'a pris à bras-le-corps ? Et c'est ça qui pourra peut-être impacter. Et on va continuer notre lecture, versets 17 à 19. Parce que si le Christ ne s'est pas réveillé, votre foi est futile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. D'ailleurs, si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous. Donc cette nouvelle, non seulement il faut l'annoncer à son corps défendant, non seulement il faut la recevoir, nous, et faire corps avec elle, mais il faut la prendre à bras le corps. Il faut vraiment s'y tenir, nous dit Paul, et la véhiculer avec le message fort que c'est, hein, qu'on voit dès ce verset. Il est question des péchés. Bon, moi, c'est un terme qui aujourd'hui fait un peu has-been peut-être, fait religieux, mais c'est un terme qu'il faut que nous, on puisse aussi savoir expliquer et assumer. Voilà, parler d'une rébellion, de quelque chose qui est contraire à la loi de Dieu, d'une loi qui veut notre bien. On peut évoquer au moins deux résumés dans la Bible, dans les 10 commandements transmis par Moïse, et puis dans cette... double équivalence de Jésus, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. N'ayons pas peur d'expliquer rapidement et simplement le péché et de dire qu'on que c'est une vérité qu'on a prise complètement, quoi. Pas juste ah oui, c'est gentil, je crois au bon Dieu, à la résurrection, puis les histoires de péché, de loi de Dieu, bon, ça c'est pas très grave, c'est second lieu. Non, si on y croit vraiment, encore aujourd'hui, il faut qu'on puisse prendre ça à bras le corps de manière entière. Et là, oui, pour nous d'abord, et puis pour d'autres ensuite. Et il faut parfois qu'on passe par Ézéchiel, par Nahum, par la Genèse et jusqu'à Apocalypse. Et donc c'est un encouragement. Et puis c'est super qu'on puisse s'encourager en Église à continuer à lire la Bible. Et ce qui est touchant, c'est que dans ce premier verset de Paul, lorsqu'il dit, là, pour cette troisième partie dans laquelle vous vous tenez, il y a une dualité un peu qui est possible dans la traduction, et les traductions varient par rapport à cela. On peut traduire cette bonne nouvelle à laquelle vous tenez, et on peut aussi traduire par laquelle vous êtes debout. Et je pense que c'est vraiment toute la force de la parole de Dieu d'être vrai dans ces deux formulations. De la même manière, lorsque le peuple de Juda est à un moment donné entouré par l'armée syrienne, c'est Ésaïe qui transmet une parole d'encouragement à la ville de Jérusalem et au roi Akaz, et ça nous est rapporté au chapitre 7 d'Ésaïe. Et voilà, il leur fait des encouragements, il leur dit « vous pouvez demander un signe au Seigneur », mais il lui dit « si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas ». Et c'est cette même parole, c'est ça la force du message chrétien, c'est que la parole de Dieu nous permet de tenir. Et c'est pareil ici, la parole de Dieu, lorsqu'elle est salvatrice comme ça, lorsqu'elle nous parle de quelque chose qui va nous sauver, si on y croit, elle nous permet de tenir. Et donc, c'est à laquelle on tient, et c'est aussi une nouvelle par laquelle on peut rester debout. Sinon, et c'est ça qu'on proclame aussi, c'est que si on n'y croit pas, on ne tiendra pas face au jugement final. Et là aussi, c'est quelque chose à laquelle qu'il faut prendre à bras-le-corps, il faut oser dire les mots, parler des choses qui parfois fâchent ou semblent complètement dépassées, mais c'est notre message également. Et je pense que c'est vraiment cette vérité qui est rappelée dans ces versets. Hein. Vous êtes encore dans vos péchés, si le Christ ne s'est pas réveillé. C'est ça qui fait qu'on est là ce matin. C'est parce qu'on tient à bras-le-corps à cette bonne nouvelle de la résurrection et on sait qu'on est délivré du poids de nos fautes. Et pour nous, ça nous apporte libération, apaisement de choses dont on a besoin au quotidien, dans le fourmillement de nos vies. Mais je pense que c'est aussi quelque chose dont nos concitoyens ont besoin. Cette crise n'a fait que révéler qu'on ne sait pas à quoi se rattacher, que les peurs sont là au quotidien. On entendait encore un sondage à la radio récemment que le nombre de personnes qui répondent qu'ils ont mal dormi dans la semaine dernière a augmenté, je crois, d'à peu près 10% au moins depuis un an. Bon, ben voilà, cette libération, cet apaisement, c'est ça, ce message qu'on apporte, c'est d'être libéré et de ne plus être accablé par nos péchés. Et du coup, c'est là encore l'honnêteté du message chrétien, c'est que ça change quelque chose vraiment, cette bonne nouvelle. Certains ont pu dire, des penseurs du XXe siècle, que bon, la chrétienté, c'était la foi, c'est juste voilà, l'opium des peuples, c'est pour faire du bien aux personnes qui sont un peu faibles, et puis c'est bien pratique pour ça. Ou bien c'est une béquille pour les faibles. Ça serait juste un message, finalement, pour oublier les difficultés du quotidien, et puis voilà. Mais Paul dit exactement le contraire. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ, donc on peut comprendre si c'est juste pour oublier les difficultés du quotidien, les problèmes au boulot, les difficultés dans l'éducation des enfants et les mauvaises relations dans la famille. Si c'est juste pour ça qu'on dit qu'on croit à Dieu, ça ne sert à rien, nous dit Paul. Vous êtes pitoyables. C'est fort, hein ? Non, non, il faut qu'on affirme ça. Et c'est pour ça que cette nouvelle, il faut qu'on la tienne et qu'on la prenne à bras-le-corps. Parce qu'on peut affirmer, nous, chrétien, que cette nouvelle, elle change quelque chose de manière durable. Et ça, c'est important pour nous, mais c'est aussi important dans la manière avec laquelle on va pouvoir en parler à d'autres. Il faut affirmer qu'on a mis notre espérance dans le Christ et qu'on n'est pas pitoyable parce qu'on l'a mis pour aujourd'hui, mais aussi pour le futur. Et c'est cette réalité spirituelle qui arrive, qui est là, celle qu'on a reçue, voilà, d'une résurrection, celle d'une dimension spirituelle qui nous dépasse, qu'on affirme, à laquelle on tient. Et en fait, c'est très fort parce que ça nous rappelle qu'il y a une dimension spirituelle qui nous dépasse, avec un destin qui est là pour nous. Voilà, c'est encore des mots qu'on entend beaucoup, un destin, karma, dans des personnes, moi en tout cas dans mon quotidien, des personnes non chrétiennes, c'est des mots que les gens utilisent encore. Certains ont un fond d'éducation plus ou moins chrétienne, ou d'autres aucun, mais il y a une notion, même pour des personnes qui ne croient en rien, qui a quelque chose, eh ben on peut se saisir de ça. Oui, la foi chrétienne affirme qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, mais ce n'est pas quelque chose qui est un dessein qui est là ni pour nous écraser, ni pour dévaloriser la réalité du quotidien. Et ça, c'est parfois un peu la tristesse d'un karma ou d'un destin dans les termes utilisés par nos concitoyens, c'est que c'est quelque chose qui s'impose à nous et qui ne fait que nous accabler, qui est là et puis c'est tout quoi. Alors que nous, ce qu'on croit, c'est que c'est un destin, oui, qui nous dépasse, mais qui donne du sens, en fait, un sens beaucoup plus profond à la réalité du quotidien. Et en fait, c'est ça, cette espérance qu'on a en tant que chrétien. Et c'est la quatrième partie de Paul, quand il dit que, voilà, vous vous tenez, et dans cette bonne nouvelle, par laquelle aussi vous êtes sur la voie du salut, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en cours, et il y a quelque chose qui va dépasser vos difficultés du quotidien. Oui, parfois, c'est difficile d'annoncer la parole, parfois, on la reçoit avec peine, parfois même, ça nous chamboule dans nos luttes au quotidien, dans nos péchés, dans lesquels on a parfois l'impression d'être encore. Croire à cette nouvelle du fait qu'on peut revenir des morts, c'est surprenant, c'est difficile parfois, mais c'est un chemin à laquelle on est là pour progresser, et puis on le fait aussi collectivement en Église. Et ben, ce chemin, il dépasse juste aujourd'hui, ce soir, demain, il va beaucoup plus loin. Et en suivant donc ce découpage de cette envolée de Paul sur la résurrection, on peut lire les versets suivants, de verset 20 au verset 28, où Paul nous montre que le fait de revenir des morts, eh ben c'est une nouvelle où il faut se jeter à corps perdu, parce que justement, on ne va pas perdre. Verset 20. Mais le Christ s'est bel et bien réveillé d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui se sont endormis. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. En effet, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront rendus vivants dans le Christ. Chacun en son rang, le Christ comme prémisse, puis à son avènement, ceux qui appartiennent au Christ. Et alors viendra la fin, quand il remettra la royauté à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à rien tout principat, autorité et puissance. Parce qu'il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera réduit à rien, c'est la mort. En effet, il a déjà tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, c'est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a tout soumis, donc c'est-à-dire Dieu, le Père. Et alors, lorsque tout lui sera vraiment soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à son tour à celui qui lui a tout soumis, donc le Père, pour que Dieu soit tout en tous. Ici, on a une petite fresque de la réalité spirituelle. C'est un peu comme quand on lit dans Apocalypse, c'est comme si on était un peu dans l'Apocalypse, on a l'impression qu'on est un peu dans le QG spirituel de Dieu, et puis on comprend un peu mieux ce qui se passe concrètement sur la terre, mais avec le prisme de la vie spirituelle. Voilà, c'est quelques versets, ces 8 versets nous parlent un petit peu de ça, qu'est-ce qui se passe depuis la croix jusque pour l'éternité, en quelques lignes. Et ici, il est question de la royauté. Et je pense vraiment que cette nouvelle de la résurrection, il est important pour nous qu'on puisse y aller à fond, parce que c'est quelque chose de grand dont il est question. Déjà, je trouve que c'est important de se rappeler que Paul rappelle que cette réponse à la rébellion humaine, elle est prévue depuis le début. Voilà. Tous meurent en Adam, mais ensuite tous reviennent à la vie en Jésus-Christ. Et on voit que Dieu a un plan et que ce n'est pas les choses qui sont faites au hasard. Parce que c'est aussi important de voir que la résurrection de Christ, événement historique, important pour notre foi, sans laquelle tout s'effondre, nécessite qu'on croie aussi à une rébellion historique, originelle de l'humanité. Et même si ça ne nous explique pas beaucoup plus de choses sur ces passages un peu mystérieux et poétiques du début de la Genèse, on voit en tout cas qu'il y a comme un revirement de situation, et je trouve que c'est aussi intéressant de le voir avec les mots qui sont utilisés. On parle d'Adam, on parle du Christ. Adam, en hébreu, c'est le terrien. Adam, c'est la terre. Et Christ, c'est la version grecque de Messie, c'est loin, celui qui est choisi par de l'huile qu'on lui verse sur la tête. Donc voilà, c'est ce passage que nous, on peut faire et qu'on peut aussi vivre dans notre quotidien, c'est que oui, on est encore des terriens, avec parfois des labeurs qui sont bien réels, mais en même temps, déjà, on a été rendu vivant, vivifié, nous dit Paul aussi ailleurs, par Christ, par cette huile qui est posée. Hein, si on veut retenir, hein, l'huile, c'est du gras, le gras, c'est la vie. Et voilà, cette huile de l'esprit qui rend vie, ce témoin, ce symbole de l'esprit dans la parole, cette huile qui est là et qui a choisi Christ, eh bien, pour nous, elle est là aussi, elle nous rend la vie. C'est par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et donc, oui, on continue à être des terriens, à avoir parfois les bottes dans la boue, et parfois c'est dur, mais on a aussi cette conscience qui nous encourage, qui nous dépasse, qu'on a cette résurrection, on a été rendu vivant lorsqu'on accepte et qu'on prend à bras le corps pour soi, qu'on reçoit ce pardon des péchés, ce message de la croix que Jésus est venu pour prendre nos péchés sur lui. Alors bien sûr, ça nous rappelle que la mort a été nécessaire pour Christ, c'est que la mort est nécessaire en fait normalement pour nous. Ce message de la croix, quand on l'affirme, il rappelle que la perdition de notre corps à nous, elle est normalement inéluctable, réelle, et si on va mourir matériellement, on devrait tous mourir spirituellement aussi et être éloigné de Dieu. Mais c'est cette bonne nouvelle qu'on peut participer à cette résurrection. C'est une nouvelle qui nous encourage aussi dans notre quotidien, au verset 25, qui nous rappelle le fait qu'il règne, il faut qu'il règne. Il règne déjà aujourd'hui, et donc ça, c'est important aussi de s'en rappeler, de s'en saisir lorsque parfois le quotidien est difficile. Prenons à bras le corps cette nouvelle et allons-y. On peut avoir des difficultés, y aller à corps perdu parce que, en fait, Christ est vainqueur. Et cet aspect de cette promesse aussi qui arrive ensuite, voilà, qui explique dans les versets 26-27 qu'il y a ce chemin que petit à petit Dieu soumet à Christ toute chose, qu'à la fin ce sera la mort qui lui sera même soumise, et cette promesse, alors le Fils déposera tout au pied du Père. Et puis une de ces paroles assez très forte, parmi les paroles très fortes et mystérieuses dans la parole, ça finit par « pour que Dieu soit tout en tous ». Voilà, en tout cas, tous ceux qui ont reçu cette résurrection, Dieu sera pleinement en nous et il sera tout en nous. C'est Pierre aussi qui évoque que Dieu nous a déjà tout donné pour la vie et pour la piété. Et à partir de ces promesses, on peut être participant de la nature divine. C'est dans 2 Pierre au chapitre 1. Donc déjà aujourd'hui, on peut participer à cette nature divine, hein, c'est complètement mystérieux, ça fait partie de ces versets qui sont un peu surprenants, que nous, on n'aurait jamais osé écrire. Mais voilà, c'est une espérance absolue et extrêmement forte, extrêmement belle, pour laquelle il est absolument justifié d'y aller à corps perdu, c'est-à-dire de s'abandonner. C'est un missionnaire, je crois, américain, qui était allé en Équateur, Jim Elliot, qui est mort à 28 ans, tué par les peuples, ses voisins à qui il partageait l'évangile, dont une des paroles donc, qui nous reste, c'est qu'il a dit, voilà, il n'est pas fou, celui qui accepte de perdre ce qu'il ne peut pas gagner, voilà, peut-être la gloire, la fortune ici-bas, pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Et c'est ça, ce message ici, si on veut s'y donner à corps perdu, c'est-à-dire, ok, on accepte que des fois c'est difficile, que des fois on se moque de nous, que voilà, ça soit dur, mais c'est pas grave pour notre vie ici-bas, c'est pas le plus important, parce que ce qu'on gagne, cette vie éternelle, cette vie spirituelle, cette assurance pour la mort, eh ben ça, on peut pas le perdre. Et ce qui est aussi surprenant, c'est que de cette résurrection de Christ, il est question que ce soit les prémices. Les prémices, c'est un terme qu'on utilise souvent pour, avant, qu'on utilisait pour parler des premiers fruits de la récolte. Et voilà, c'est les premiers fruits. Alors c'est toujours super les premiers fruits parce que, on les attendait dans une civilisation où il n'y avait peut-être pas, comme actuellement, les frigos et autres, et puis les transports qui fait qu'on a des pommes ou des pêches en toute saison, ou des fraises. Voilà, les premiers fruits, à nouveau, ils font plaisir. Donc, la résurrection, c'est les prémices. La résurrection du Christ, c'est voilà, le début de cette grande aventure. Mais en même temps, ce n'est que les prémices. Après, il y a l'ensemble de la récolte. Et pour un agriculteur ou même pour une société, ce qui compte au final, ben, c'est l'ensemble de la récolte, quoi. Juste les prémices, c'était ce qu'on offrait à Dieu, ce qui était important, mais ce n'est pas ça qui nourrit toute la société. Ce qui est important, c'est l'ensemble de la récolte. Et donc ici, on a cette image d'agriculture qui nous parle et qui me pousse en tout cas à dire d'une certaine manière, avec respect j'espère, que la résurrection, c'est un événement important et fort, mais c'est les prémices. Alors quel peuple sommes-nous pour affirmer que la résurrection n'est que les prémices de quelque chose de plus grand? C'est incroyable. On fait partie de ceux qui disent « quelqu'un est revenu à la vie, mais c'est encore mieux ce qui arrive après ». C'est très fort. Alors allons-y dans cette nouvelle. Ça m'a fait penser. Voilà, je suis allé voir au cinéma un film qui s'appelle Dune. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une adaptation cinématographique d'un livre de science-fiction du XXe siècle. Et bon, en en sortant avec mon cousin, on s'est fait la remarque que c'est vrai que ça nous montre encore les progrès du cinéma, de la technique. C'est impressionnant. On est dedans à fond. Et en même temps, moi, je ne connaissais pas cette histoire, mais ça ne raconte en 2h30 que le début de l'histoire, quoi. On a un peu le sentiment, quand on arrive à la fin, bon, bah, ça y est, ça va enfin commencer, quoi. Donc, le film 2 arrive. Bon, voilà, c'est les prémices, mais après, il y aura plus grand encore. Pour ceux qui connaissent le monde de Tolkien, voilà, il a écrit Le Hobbit, qui était une histoire pour enfants, même si il y en a eu une adaptation cinématographique en 3 volets un peu majestueux, mais à la base, c'est un livre pour enfants qu'on raconte chapitre par chapitre le soir en se couchant. Et c'est les prémices pour expliquer comment cet anneau est découvert par Bilbon. Et ensuite, il y a toute l'aventure de Seigneur des Anneaux qui va arriver à la destruction de cet anneau. Ça, c'est les prémices. Et après, il y a la grande aventure. Et bien, pour nous, c'est pareil. On affirme avec force un événement incroyable et pourtant, c'est le début. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on puisse aussi affirmer en n'ayant pas peur d'y aller à fond et de parfois perdre des choses, parce qu'on gagne quelque chose qu'on ne pourra pas perdre, c'est l'assurance que l'aventure qui nous reste à vivre, elle est encore plus grande que celle d'aujourd'hui. Alors voilà, est-ce qu'on on accepte ce texte encore pour nous aujourd'hui, qui nous parle de cette annonce, de cette réception, d'y tenir, et d'un chemin, la voie du salut qui est progressif? Est-ce qu'on arrive à croire et à véhiculer le fait qu'il y a encore plus grand que celle de la croix de Christ? C'est la résurrection de millions et de millions de personnes. Et voilà, est-ce que ça peut nous donner, en tout cas c'est ce que j'espère, une motivation pour avancer, comme le dit ailleurs aussi Paul, de gloire en gloire, de notre connaissance du plan de Dieu. Et pour cela, il faut que nous, on soit les premiers à maintenir ce chemin de la bonne nouvelle, ce chemin de l'Évangile, transmettre cette parole et le transmettre parfois à notre corps défendant. Est-ce qu'on ose, seul et en Église, aller parler de Dieu? Est-ce qu'on la reçoit encore aujourd'hui? Est-ce qu'on fait corps avec cette nouvelle? Et est-ce qu'on croit que, comme le dit Jésus, il y a d'autres personnes qui sont de cette bergerie, qui n'y sont pas encore, mais Jésus les connaît déjà? Donc, rassurons-nous, d'autres personnes vont encore faire corps avec cette nouvelle et vont se rajouter à cette Église. Croyons-y. Et pour cela, il faut qu'on prenne cette affirmation de notre foi à bras-le-corps, qu'on soit conscient et qu'on affirme et qu'on vive au quotidien cette délivrance de nos péchés et qu'on progresse en sainteté. Et puis, il faut accepter d'y aller à fond, quoi. À corps perdu, c'est une belle aventure, on peut y aller, c'est plus grand que le Seigneur des Anneaux, c'est plus grand que tout. Allons-y, quoi. La résurrection du Christ, c'est le début, on l'annonce, et puis ça va illuminer notre chemin à tous. En tout cas, je remercie Paul de cette lecture qu'il nous propose de la croix. Et je prie vraiment, et puis je vais prier pour finir que l'Esprit du Christ, l'Esprit du ressuscité, viennent se saisir de nous.